On va s'intéresser maintenant, eh bien, figurez-vous, à l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Il est actuellement de 8% en Belgique, corrigé pour la durée de travail. Et cela signifie que l'écart continue de se résorber, mais trop lentement, au goût de beaucoup de personnes. On écoute les précisions de Véronique Debatz, elle est porte-parole de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et elle s'exprimait justement à votre micro, ma chère Asselet.
Véronique Debatz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes la porte-parole de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, on va parler avec vous de l'écart salarial entre les femmes et les hommes qui manifestement continue à se résorber. L'écart est actuellement de 8% corrigé pour la durée de travail selon les données de 2021 de l'ONSS. Alors, première question, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail ces données ?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est assez technique et pas toujours compréhensible compris en tout cas par tout le monde. Donc en fait, l'écart salarial, il est calculé de deux façons par l'Institut. Le chiffre que vous venez de citer, 8%, c'est en fait l'écart salarial qui est calculé sur base d'une idée théorique qui dirait que tout le monde travaille à temps plein. Donc on ramène, si vous voulez, tous les temps de travail à temps plein, de manière théorique, et sur base de ces salaires temps plein fictifs, on calcule l'écart salarial entre les femmes et les hommes, et cet écart s'élève à 8%. Une deuxième manière de calculer l'écart salarial, c'est de manière beaucoup plus simple et brute. On va prendre les salaires qui sont perçus par les femmes et par les hommes sur une année, sans corriger pour la durée de travail, donc peu importe les temps partiels en particulier, et on va comparer les salaires des femmes et des hommes. Et là, évidemment, l'écart salarial grimpe à 21%. Pourquoi ? Parce que près de 4 femmes salariées sur 10 en Belgique travaillent à temps partiel contre seulement un homme salarié sur 10.
D'accord, donc si j'ai bien tout compris, pour obtenir ces données, on se base uniquement sur les travailleuses et les travailleurs qui travaillent sous contrat, donc qui sont salariés, on ne parle pas des indépendants.
Oui, non, tout à fait. On va reprendre une base assez large de salariés. Ici, on est auprès des salariés. Chaque année, enfin tous les 4 ans, l'Institut fait un rapport plus général qui va reprendre des secteurs complémentaires, mais c'est vrai que de manière annuelle, on va reprendre simplement les salariés.
Alors cet écart salarial de 8% entre les femmes et les hommes, c'est une résorption par rapport à l'année 2020, lorsque l'écart s'élevait à 8,5%, on imagine que c'est encourageant.
Oui, tout à fait. Donc cet écart calculé sur base du temps de travail corrigé en équivalent temps plein, donc cet écart salarial de 8% est effectivement en diminution depuis de nombreuses années. Hein. Donc ça, c'est tout à fait encourageant. Ce qui est peut-être un petit peu moins encourageant, c'est le niveau de l'écart salarial non corrigé pour la durée de travail qui reste élevé, comme je vous le disais, en particulier parce qu'on a un taux de travail à temps partiel des femmes en Belgique qui est très élevé, notamment par rapport à la moyenne européenne. Hein. On est au-dessus de la moyenne européenne. Et donc, par rapport à l'écart salarial corrigé pour la durée de travail, qui s'élève à 8%. Ça, c'est vrai que c'est intéressant de noter que la Belgique a un des écarts salariaux qui est, corrigé pour la durée de travail, qui est parmi les plus faibles de l'Union européenne.
Alors, on sait qu'en 2011, l'écart salarial femmes-hommes était de 10%. Comment ça se fait qu'en l'espace de 11 ans, l'écart ne s'est résorbé, si j'ose dire, que de 2%? C'est un petit peu peu, non?
Oui, oui, donc tout à fait. Donc on peut se réjouir que cet écart se résorbe, mais il se résorbe effectivement extrêmement lentement. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que une partie de l'écart salarial chez nous est due au fait qu'il y a des grosses différences entre les secteurs. Donc quand on compare les salaires des hommes et des femmes, on va comparer les salaires tous secteurs confondus. Or, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées, qui sont le secteur des soins, des services, par exemple, tout ce qui est petite enfance, etc., dans lesquels les femmes sont surreprésentées, comme je le disais, et dans lesquels les salaires sont très peu élevés. Et donc, évidemment, si on compare des secteurs où les salaires sont peu élevés et les femmes sont surreprésentées à des secteurs où les hommes sont surreprésentés et les salaires sont plus élevés, ça a une influence sur l'écart salarial. Alors, On pourrait, voilà, dans le cadre maintenant de l'adoption de la nouvelle directive sur la transparence salariale, il y a une réflexion au niveau belge sur la comparabilité, si vous voulez, des emplois et des différents emplois dans les différents secteurs. Une des propositions de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, ce serait d'établir des critères objectifs qui permettent de donner une valeur au travail, peu importe le secteur, et de pouvoir dès lors comparer par exemple un poste d'infirmière dans une maison de repos, par exemple, avec un poste de manœuvre sur un chantier en construction. Et donc, parce qu'il y a dans les deux cas des aspects physiques, des aspects voilà, d'horaire, etc. Et donc, ça permettrait de pouvoir répondre ici, de pouvoir comparer des emplois qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui ont la même valeur.
Alors on comprend donc que même si les chiffres y vont dans la bonne direction, il reste néanmoins encore pas mal de chemin à parcourir. Est-ce qu'on peut, bon c'est un petit peu utopique hein, de ma part, mais est-ce qu'on peut espérer obtenir une vraie égalité salariale femmes-hommes?
Tout dépend ce qu'on entend par vraie égalité salariale. Si on se base sur l'écart salarial corrigé pour la durée de travail, on voit qu'on avance dans la bonne direction, on voit que l'écart n'est plus si élevé. On voit aussi que ça diminue très lentement. Donc voilà, pour espérer vraiment arriver à zéro, on va dire, il va falloir prendre des mesures supplémentaires. Il va falloir que voilà, qu'il y ait plus d'égalité salariale entre les secteurs. Il va aussi falloir que les femmes puissent monter, enfin autant de femmes que d'hommes puissent se retrouver aux fonctions les plus élevées des entreprises, parce que ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui joue sur les salaires. Il va falloir que la question de la conciliation ne soit plus un handicap pour les femmes. On sait aujourd'hui que l'écart salarial, il commence à se creuser vers 35 ans, c'est-à-dire quand les femmes ont eu leurs premiers enfants et que malheureusement, elles supportent encore en général la majorité des tâches liées aux soins et à la conciliation.
Oui, c'est un vrai sujet de société, hein. C'est un sujet dont on discute beaucoup, hein, femmes-hommes. On dit souvent que s'il y a un écart salarial, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus à mi-temps, il y a beaucoup plus de femmes qui sont à mi-temps, et puis aussi les femmes n'occupent pas forcément des postes aussi élevés que les hommes, aussi bien, entre guillemets, payés. C'est peut-être une question un petit peu naïve, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes n'osent pas? Est-ce qu'il y a vraiment encore une vraie société patriarcale derrière tout ça?
Je pense que certainement les normes culturelles de notre société sont encore extrêmement présentes et même chez les jeunes, hein, donc c'est très difficile de sortir et d'inventer quelque part un nouveau modèle. Une des pistes que nous on suggère à l'Institut, c'est vraiment de renforcer l'égalité dans la sphère privée. On sait qu'on n'aura pas plus d'égalité dans la sphère professionnelle si on n'a pas plus d'égalité dans la sphère privée. Et donc pour ça, ben, il y a déjà des pas qui ont été enclenchés, hein, avec notamment un congé de paternité qui s'élève à 20 jours aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce congé de paternité soit rendu obligatoire, parce que on sait que dans les entreprises, tous les pères n'arrivent pas à prendre leur congé de paternité, et on sait qu'ils prennent très peu encore, malheureusement, le congé parental, hein, donc qu'on peut prendre jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Et une des raisons à cette faible prise, en tout cas du congé parental, c'est la crainte d'être mal vue dans son entreprise, la crainte d'être vue comme quelqu'un qui fait passer sa vie de famille avant sa vie professionnelle. Et donc voilà, il faut trouver des moyens d'encourager et de permettre aux pères de prendre ces congés pour soulager voilà, le rôle de la mère dans la sphère privée. Ça, mais c'est quelque chose effectivement qui va demander de sortir de notre modèle actuel. Alors, il y a des personnes qui pourraient se dire, mais pourquoi, voilà, ça fonctionne, hein, pourquoi est-ce qu'on doit tout changer? Une des raisons à ça, c'est que ces inégalités sur le marché du travail, cet écart salarial, il ne s'agit effectivement pas d'une discrimination, en tout cas pas toujours, hein, ce sont des inégalités. Mais ces inégalités, elles vont avoir un impact ensuite, on le sait, sur la pension des femmes, hein, qui sera beaucoup plus faible. Ces inégalités vont aussi avoir un impact si à un moment les femmes se retrouvent seules, enfin ou en tout cas se séparent de leur conjoint et se retrouvent dès lors à vivre avec un salaire plus faible que leur conjoint puisqu'elles auront donné la priorité à leur famille.
Merci beaucoup Véronique Debatz d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la porte-parole de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Merci beaucoup pour vos réponses. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.